Vivre la joie chrétienne à l'école de Thérèse.
Deuxième enseignement.
Nous allons donc étudier aujourd'hui un deuxième volet du triptyque sur l'esprit d'enfant, sur la petite voix, à savoir que Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Et cela, c'est vraiment le cœur de la pensée de Thérèse. C'est le grand paradoxe de Thérèse. Cette petite fille spécialement préservée du péché avait un sens énorme d'être une pécheresse pardonnée. Et le charisme de Lisieux, c'est d'aider beaucoup de gens à se réconcilier avec leur condition de pécheur pardonné. Dieu peut se servir évidemment d'un père de Foucault, d'un François d'Assise, de personnes qui ont eu un passé extrêmement orageux, difficile, pécheur, mais l'humour de Dieu, c'est de se servir d'une fille spécialement préservée du péché pour nous faire accepter la première chose qu'on doit accepter dans une vie, d'être misérable. Quand un enfant fait sa première communion, même s'il est très bien préparé, même s'il fait une très bonne confession, il ne sait pas encore qu'il est vraiment pécheur, qu'il est misérable. C'est plus tard que ça vient, vers 15-17 ans. Je pense que l'âge le plus difficile de la vie, c'est entre 15 et 25 ans. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à s'apercevoir qu'on en a une sacrée couche. À 10-11 ans, on est pécheur, bien sûr, on fait une bonne confession, on n'a pas mis la table comme maman le demandait, on a pris un bonbon en cachette, on n'a pas bien travaillé, on a tiré les cheveux de la petite sœur, et je ne me moque absolument pas de ces confessions très belles d'enfants. Mais enfin, à cet âge-là, on est brave, quoi. Donc c'est normal que le bon Dieu vous aime. Mais quand on avance un peu dans la vie, on s'aperçoit de ces incohérences. On rêve de transparence et l'on est menteur. On rêve de pureté et l'on est impur. On rêve de générosité et on reste dans ses pantoufles quand on vous demande un service. Ça fait mal. Et vous savez que c'est cela qui explique certains suicides de jeunes. Même si la plupart sont sans doute provoqués par une dépression nerveuse, ceux qui réchappent d'un suicide avouent qu'ils se sont suicidés par déception d'eux-mêmes. Non pas par déception sentimentale, mais ils n'ont pas supporté leur médiocrité. Ça fait mal. Je crois, en termes pascaliens, que nous avons deux choses à ne jamais oublier dans notre vie, notre misère et notre grandeur. Alors quand on est jeune, il faut d'abord accepter sa misère et à partir de 40 ans, il ne faut pas se résigner à sa misère. Mais ça, nous en parlerons demain. Donc, Thérèse va nous aider à accepter cette misère, notre condition de pauvre pécheur pardonné. Et tant qu'on n'a pas découvert cela, je pense qu'on n'a pas découvert le cœur de l'Évangile. La première fois que j'ai entendu Jacques Le Breton nous parler de son extraordinaire aventure, j'étais allé l'écouter avec un bon nombre d'élèves de première et de terminale, j'ai été très étonné d'apprendre que cet homme qui avait si merveilleusement découvert Dieu sur son lit d'hôpital à Damas, après avoir réalisé qu'il était sans bras et sans yeux, j'ai été très étonné d'apprendre que cet homme avait renié Dieu en 1954, quand il a appris que le Vatican supprimait l'expérience des prêtres ouvriers, comme son propre frère capucin était prêtre ouvrier dans un bidonville de la région parisienne. Il s'est révolté contre l'Église, contre Dieu, et il a vécu comme un salaud, dit-il, avec sa femme, et notamment pendant toute une année, ne lui adressant plus la parole, la traitant comme un chien. Très étonné d'apprendre cela, je lui ai posé comme question à l'entracte, sur bout de papier, comme on le fait d'habitude, « Monsieur Le Breton, comment avez-vous pu abandonner Dieu alors que vous l'aviez si bien découvert sur votre lit d'hôpital ?» Mais comme j'avais déjà les idées que je développe ce matin, j'ajoutais timidement sur mon papier, peut-être bien que la première fois vous n'aviez pas vraiment découvert Dieu, parce que vous n'aviez pas découvert sa miséricorde. Quand l'impresario du soir lui a lu ma question, c'était vers la fin de la soirée, il a répondu de sa voix caractéristique au micro, « Voilà une question intéressante, il y a à la fois la question et la réponse qui fait. » Et il a dit que c'était tout à fait cela, qu'il avait fallu qu'il abandonne Dieu pour découvrir enfin le vrai visage de Dieu. « Et maintenant, j'espère bien que je ne le lâcherai plus, ou plutôt qu'il ne me lâchera pas. » Mais notre amitié est née de cette première rencontre. Il disait plus tard, au cours d'une retraite que je lui prêchais, il disait tout haut, donc je peux en parler, que je l'avais aidé à thématiser ces deux conversions. La première fois, il découvrait la tendresse d'un Dieu qui le remettait debout, qui lui donnait l'espérance de pouvoir se marier un jour et d'avoir un métier. Mais c'est la deuxième fois, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa Bretagne natale, au temps où la fête de Thérèse était le 3 octobre, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1960, dans le Finistère, il a réalisé à quel point il était pécheur, alors que quelques heures plus tôt, il se moquait encore de la religion. Et le lundi matin, il suppliait sa maman de le conduire quelque part pour qu'il puisse se confesser. J'avais une fringale de me confesser. Il n'est pas nécessaire de renier Dieu pendant des années, comme l'a fait Jacques le Breton, pour découvrir la miséricorde de Dieu, puisque justement la petite Thérèse l'a découverte à travers des choses toutes simples, notamment à travers sa fragilité d'adolescente. Elle a été préservée du péché, sans doute parce qu'elle était encore plus faible que les autres, plus orgueilleuse. Elle l'explique dans son premier manuscrit. Elle s'était beaucoup attachée, comme on peut le faire à cet âge-là, à deux camarades de sa classe. D'ailleurs, sur l'image de sa seconde communion, elle a coché le nom de ses deux copines, hein, Jeanne Raoul et Félicie Maligne. Quand elle parlait de Jeanne, elle en avait plein la bouche. Jeanne. Mon cœur sensible et aimant se serait facilement donné s'il avait trouvé un cœur capable de le comprendre. J'essayais de me lier avec des petites filles de mon âge, surtout avec deux d'entre elles. Je les aimais, et de leur côté, elles m'aimaient autant qu'elles en étaient capables. Mais hélas, qu'il était étroit et volage le cœur des créatures. Bientôt, je vis que mon amour était incompris. Une de mes amies, Jeanne, ayant été obligée de rentrer dans sa famille, revint quelques mois après. Pendant son absence, j'avais pensé à elle, gardant précieusement une petite bague qu'elle m'avait donnée. En revoyant ma compagne, ma joie fut grande, mais hélas, je n'obtins qu'un regard indifférent. Jeanne s'est détachée d'elle. Je n'ai pas eu à me détacher. Le Seigneur a fait en sorte que Jeanne ne pense plus à moi, parce que j'étais plus faible qu'une autre. Ah, je le sens, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Peut-être me serais-je laissé brûler tout entière par la trompeuse lumière si je l'avais vue briller à mes yeux. Je serais tombé dans des amitiés particulières. Et si je suis entré plus jeune au Carmel qu'une autre, c'est sans doute parce que j'étais plus faible. Céline a pu rester dans le monde pour soigner papa. Elle a eu je ne sais combien de prétendants. Elle dansait merveilleusement dans les soirées. Moi, j'ai pas eu d'effort à faire pour entrer au couvent. Le Seigneur m'a donné le désir d'y entrer toute jeune. Je suis plus faible qu'une autre. Thérèse était persuadée de cela. Et c'est pour cela que vous faites un contresens complet quand vous interprétez comme un signe de générosité son entrée précoce au Carmel. C'est vrai qu'elle l'a fait par générosité, mais après coup, en relisant son histoire, c'est parce que j'étais plus faible. Et sur son lit de mort, quand il lui arrive de commettre un péché véniel, car Thérèse se confessait, elle n'était pas l'Immaculée Conception, quand elle commettait une indélicatesse, eh bien, elle était toute heureuse, en quelque sorte, après coup, d'expérimenter une fois de plus que Dieu était lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Par exemple, le 29 juillet, sœur Marthe, son ancienne compagne de noviciat, une sœur au voile blanc, comme on disait alors, une sœur converse, lui avait offert un petit moulin à musique. On offrait comme cela des jouets aux religieuses pour que, sans manquer aux vœux de pauvreté, elle puisse le donner ensuite à un neveu ou à une nièce. 29 juillet, jour de la Sainte-Marthe, on offre à sœur Marthe un petit moulin à musique. Et elle se dit, ça va faire plaisir à Thérèse, à l'infirmerie. Je vais la distraire avec mon petit moulin à musique. Sans réaliser que lorsqu'on a 42 fièvres, ce n'est pas forcément quelque chose qui détend. Et Thérèse fait sentir à sœur Marthe que son cadeau est malvenu. Elle manque de délicatesse. Nous verrons par ailleurs à quel point elle était capable d'une très grande délicatesse envers toutes les sœurs. Mais ce soir-là, ce jour-là, elle a manqué de délicatesse. Elle a demandé pardon à sœur Marthe, bien sûr. Et ensuite, elle dit à sa petite mère, mère Agnès, « Oh, que je suis heureuse de me voir imparfaite et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de la mort. » Elle ne fait pas exprès de faire des péchés, mais quand ça lui arrive, eh bien, elle en profite pour redire au Seigneur, tu vois que j'ai besoin de toi. Le 12 août, en récitant le Confiteur avant de communier, Thérèse verse des larmes. Le soir, elle confie, je crois que les larmes que j'ai versées ce matin étaient des larmes de contrition parfaite. Ah, comme il est bien impossible de se donner de tels sentiments. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il veut. Autrement dit, Thérèse recevait ce jour-là ce que Thérèse d'Avila appelle une grâce d'humilité infuse, c'est-à-dire une humilité qui n'est pas provoquée par le souvenir précis de telle ou telle faute, mais par un sentiment que le Saint-Esprit produit lui-même dans notre cœur, le sentiment de crainte filiale, le don du Saint-Esprit de crainte, qui nous fait réaliser notre condition de pécheur. On pourrait multiplier les exemples. Le premier pape, Saint-Pierre, il a glissé sur une peau de banane comme ce n'était pas permis. Et il était prévenu. Il a raté l'occasion de sa vie. Bien mieux, il a raté l'occasion de l'histoire de l'Église. Il n'y aura plus jamais un pape qui pourra confesser sa foi la nuit même où Jésus fut livré. C'est râpé pour l'éternité. Seulement, au lieu de se lamenter, il s'est laissé bouleverser par le regard de Jésus. Comme le chante Georges Lefebvre, il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long, il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. Et cela me fait penser à la réflexion que fait saint Augustin en réfléchissant sur la conversion in extremis du bon larron. Qu'as-tu fait, bon larron, pour te convertir comme ça en un instant sur le calvaire? Et saint Augustin imagine la réponse de ce bon larron. Il m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris.